vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Attention le matériel.
L'eau. L'eau.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes au Festival Climax à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. 4 jours de conférences et de concerts. Le slogan, une éco-mobilisation pour un monde moins pire. Notre studio est installé au Darwin Écosystème, un lieu emblématique de la transition écologique qui réunit une pluralité d'activités entrepreneuriales et associatives et qui démontre quotidiennement qu'un autre monde est possible. Et il y en a bien besoin, comme le prouve cette intervention de Bernard Cressens, président du comité français de l'UICN, c'était hier au festival.
Alors sur la question de l'anthropocène, est-ce que l'humanité peut vivre en harmonie avec la nature? C'est clair que sur ces 100 dernières années, c'est non. J'aurais pu vous présenter quelques diapos. Première diapo que je vous aurais présentée, les gaz à effet de serre. Chut. Deuxième diapo que j'aurais pu vous présenter, la courbe démographique. Chut. Troisième diapo que j'aurais pu vous présenter, les dépenses d'armement. Chut. Encore cette année, plus 20%. Quatrième diapo que j'aurais pu vous présenter, les pollutions en tout genre. Hop, on a fait le Grenelle de l'environnement, on devait diminuer les pesticides de 50%, ils ont augmenté 12%. Résultat, on n'est pas sur la bonne pente, aussi bien en France qui veut donner des leçons, que sur l'ensemble du monde. La seule chose qui baisse, c'est le vivant. Chez les insectes, chez les oiseaux, chez les mammifères, chez les batraciens, c'est la dégringolade. Donc, c'est clair que l'humanité ne vit pas en harmonie avec la nature et ne pourra pas vivre en harmonie avec la nature. Alors, est-ce que ça sera le grand soir, le jugement dernier? J'en sais rien. Ça va plutôt être une dégradation continue qui va nous poser de plus en plus de problèmes.
L'édition 2018 de Climax est dédiée à cette 6e extinction de masse de la biodiversité. Les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis un siècle. Alors, est-ce que ce sera le grand soir? Eh bien, nous en parlons avec nos invités. Gilles Boeuf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et professeur à la Sorbonne. Franck Courchamp, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Sud. Serge Lopez, bonjour.
Bonjour.
Président fondateur de Wildlife Angel. Et Sabrina Krief, bonjour.
Bonjour.
Primatologue, vétérinaire et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors Gilles Boeuf, est-ce que vous pouvez, on va démarrer avec vous, nous expliquer en quelques mots l'ampleur de cette disparition de la biodiversité aujourd'hui?
J'aime pas trop le terme de disparition, moi, parce que finalement, on n'a pas d'espèces. Par exemple, moi qui suis un marin, aujourd'hui, on connaît une espèce disparue dans l'océan en Europe depuis très longtemps. On est sur un effondrement du nombre d'individus dans les populations, qui à terme pourrait nous amener des extinctions. Et on a quand même des espèces qui sont sur la pente quand même terrible. On parlait des rhinocéros avec Sergio tout à l'heure. Donc ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui, c'est que de façon assez ahurissante, on a une accélération, mais fantastique, de ces populations animales. Même très banales. On parle en France du moineau, par exemple, de l'alouette des champs, qui partent. On tue la moitié des lions sur 40 ans. Pourquoi? Dans quelles conditions? Et c'est vrai que cette observation de ce système en accélération constante est effarant, parce que Franck vous parlera d'un joli papier qu'il a fait récemment où il montre que même ceux qu'on aime, on les fait disparaître peut-être plus vite que les autres. La question, c'est pourquoi? Dans quelles conditions? Parce que l'humain est dans une situation aujourd'hui, bien sûr, de démographie qui continue à augmenter. Je rappelle que quand on parlait d'anthropocène tout à l'heure avec Bernard, on est 2,2 milliards d'humains en 1945, on est maintenant à 7. Triper la population, et puis on est dans un système d'économie qui continue à faire du profit sur la destruction du vivant, ou sur l'exploitation aussi, bien sûr. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cris d'alarme. 3 tribunes dans le monde en 2 semaines, on n'a jamais vu ça, hein, où les gens s'indignent. Et je reviens toujours à Einstein qui disait, parmi d'autres choses, il disait en fait, le monde ne va pas mal des gens stupides ou méchants, il va mal des gens normaux qui les laissent faire. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc il faut que le monde scientifique, évidemment, c'est notre boulot, hein. On est là en fait pour science-based en plus, parce qu'on souffre énormément en ce moment de ce qu'on appelle en anglais les fake news, d'informations complètement saugrenues, délétères, qui n'est pas la réalité. Donc il faut revenir à la réalité. Nous vivons aujourd'hui un effondrement de ces populations vivantes. Alors quand je parle de ce qu'on connaît bien, imaginez le reste, hein, qui connaît ce qui se passe pour d'autres espèces. Et ça, c'est pas supportable. Nicolas Hulot avait poussé son coup de gueule à l'Assemblée nationale, au mois de mai, où il avait dit « l'humain est un destructeur de la vie sur la planète ». Et c'est là-dessus que nous, on doit réagir. Et pour ça, il faut de la science, c'est absolument fondamental, et après, entraîner l'adhésion du public. Sachant que la seule solution aujourd'hui, la seule réaction possible, elle viendra de la société civile. Hein.
On en parlera dans un instant. Franck Courchamp, alors on élimine même les animaux, la biodiversité que l'on aime?
Oui, on élimine même les animaux qu'on trouve les plus charismatiques, ceux qui nous plaisent le plus. On a fait une étude récemment qui visait à essayer de lister les espèces qui plaisaient le plus. Alors c'était plus pour un public occidental, européen, américain, qui ont listé une vingtaine d'espèces qui sont souvent des grands animaux, des grands mammifères même pour la plupart, beaucoup d'animaux africains, qui sont les animaux préférés, les chouchous des gens qui ont répondu à cette étude. Et on s'est aperçu que ces animaux étaient tous très mal en point, tous menacés d'extinction à relativement court terme. Alors on parlait du tigre, du lion, de l'éléphant, de la girafe, des gorilles, etc. Et on s'est aperçu non seulement que c'était un peu paradoxal que ces animaux que les gens aiment disparaissent, mais on s'est aussi aperçu que les gens ne savaient pas que ces espèces étaient menacées, qu'ils n'en avaient vraiment aucune idée, et aussi que la science connaît finalement relativement peu de choses sur ces espèces. On ne sait pas exactement combien il y a d'éléphants en Afrique ou combien il y a de gorilles. On a des chiffres qui sont relativement précis pour certaines choses, et puis on s'aperçoit que finalement on a des estimations qui étaient un petit peu biaisées parce qu'il y a des grandes zones de forêt par exemple où les densités étaient peut-être différentes et peut-être que les extrapolations n'étaient pas bonnes. Et donc finalement, ces animaux qu'on connaît très très bien, on se demande pourquoi est-ce qu'ils disparaissent, pourquoi est-ce qu'on les laisse disparaître et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'ils disparaissent. Et en fait, on ne sait pas qu'ils disparaissent et c'est pour ça qu'on ne cherche pas à les protéger. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'ils disparaissent alors qu'on devrait bien les connaître puisque c'est nos animaux préférés? Parce qu'on les voit partout en virtuel. On les voit partout en virtuel parce que c'est nos préférés. Donc ils sont partout dans la culture et dans le marketing. Ils sont sur tous les t-shirts, toutes les boîtes de céréales, sur toutes les affiches, sur tous les drapeaux, dans tous les dessins animés. Et donc on a l'impression qu'on voit tout le temps ces animaux et qu'ils ne sont pas menacés. On a l'impression que les girafes, c'est relativement commun. Alors que les girafes, par exemple, une des espèces de girafes, la girafe nubienne, a perdu 97% de l'espèce en 35 ans seulement.
Et donc ce que vous dites, c'est que si ça continue comme ça, on ne les verra plus que dans le virtuel?
Voilà, alors peut-être qu'on les verra dans des zoos, ils peuvent être protégés de manière in vitro, mais à l'état naturel, on sait déjà, avec des modèles, que si on continue sur cette même trajectoire, par exemple les lions, on en a pour à peu près 20 ans, si on ne change pas la manière dont on est en train de gérer les populations de lions. Le lion, c'est le roi des animaux. C'est l'espèce emblématique par excellence dans tous les pays. En Afrique, c'est même l'emblème de plusieurs pays. Il est dans toutes les histoires, tous les dessins animés, sur tous les logos d'entreprises. Si on perd le roi des animaux, s'il n'existe plus, quel espoir a-t-on de sauver une petite plante à Sumatra ou un petit poisson vers Bornéo?
Et on ne parle pas des insectes.
Exactement. Oui.
Alors parmi les espèces que l'on aime bien, il y a les grands singes. Sabrina Kriev, vous travaillez depuis 2008 dans l'ouest de l'Ouganda, dans la zone de Sébitoli, à l'extrême nord du parc de Kibale. Vous étudiez les capacités des chimpanzés à vivre justement dans des habitats menacés par l'activité humaine. Alors quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur ces grands singes?
La principale menace, c'est la perte d'habitat. Et la première cause de perte d'habitat, c'est l'agriculture. Pour les grands singes, il y a aussi le braconnage, mais ça vaut pour de nombreuses autres espèces, soit pour la viande de brousse, soit pour le trafic d'animaux vivants, donc de jeunes individus. Et puis, il y a les maladies aussi. Pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, il suffit pas d'être charismatique. Même les espèces les plus proches de nous, donc le chimpanzé, qui est notre plus proche parent, est lui aussi en danger d'extinction.
Et, à quelle échéance?
En fait, c'est un peu comme les autres. On imagine qu'il peut y avoir des populations réductuelles sur des petites zones qui persistent, mais d'ici 30 à 50 ans, il n'y aura plus de population viable avec suffisamment d'individus pour avoir une diversité génétique suffisante. Et donc, pareil, depuis en 50 ans, 70% de toutes les populations de grands singes ont disparu. Donc ça va très très vite. Et donc, de la même façon, on a toujours l'impression qu'on place l'homme au cœur des enjeux, il ne suffit pas d'être l'espèce la plus proche de l'homme pour être bien protégé. Et de la même façon que les autres espèces, on ne sait pas que le chimpanzé est menacé.
Et alors vous hochiez la tête un peu bizarrement quand Francourchamps disait « on ne sait pas estimer aujourd'hui les populations des grands singes ».
En tout cas, pour certains, par exemple les gorilles de montagne, on sait que ceux qui vivent entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo, il n'en existe plus que quelques centaines. Et même dans ces cas-là, on n'est pas capable forcément de les protéger. Pareil pour les gorilles qui vivent entre le Nigeria et le Cameroun, moins de 300 individus. Donc là, évidemment, les estimations devraient être refaites régulièrement et nous donneraient des chiffres plus précis, mais il y a quand même des chiffres très très alarmants et la situation est catastrophique. Et cette perte d'habitat est galopante due à l'agriculture qui peu à peu empiète et pollue les habitats. Et les chimpanzés de ces Sébitoli sont vraiment des témoins de cette pollution, puisqu'on a 30% des chimpanzés qui ont des malformations faciales, des becs de lièvre, des nez sans narines.
À cause quoi, des engrais, des pesticides, ce genre de choses?
Exactement, à cause du glyphosate qui est pulvérisé sur le thé, de l'imidaclopride qui enrobe le maïs, donc ces semences OGM qui en plus sont enrobées d'insecticides. Tout ça, ça fait un cocktail détonnant. On a aussi des babouins qui ont, pareil, des narines entre les yeux. Donc là, on a identifié dans la petite zone où on est 30 babouins qui sont atteints de cette façon-là. Et bien sûr, quand on va voir les enfants dans les villages à côté, on a des gamins qui ont 6 doigts aux mains, 6 doigts aux pieds, des yeux sur le côté de la tête, des retards mentaux. Donc les grands singes sont là pour nous montrer que il est temps de faire quelque chose. Enfin, c'est vraiment un signal d'alarme. Pour les humains, on a tendance à penser qu'il peut y avoir l'alcoolisme ou la cigarette qui entre aussi en jeu. Bah non, les chimpanzés ne fument pas et ne boivent pas. Il y a bien des pesticides dans leur habitat et ils en sont malades.
Alors, autre espèce fortement menacée, les éléphants, les rhinocéros, les félins d'Afrique. Serge Lopez, c'est votre combat avec votre ONG Wildlife Angel que je vous laisse nous présenter.
Oui, absolument. Pour présenter Wildlife Angel, je vous propose d'utiliser notre slogan, défendre la faune sauvage africaine en danger et ceux qui la défendent. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que les Occidentaux, les Français en particulier, à un moment donné, on va arrêter de donner des leçons à nos frères africains. On va simplement donc aller avec eux sur le terrain pour combattre pied à pied le braconnage, puisque c'est, on va dire, notre vocation première. Et on part du principe que sauver, ou tout du moins essayer de protéger la faune sauvage en danger, ne peut passer qu'avec le concours des populations locales, des autorités coutumières et bien évidemment des gouvernements locaux. Alors on obtient des résultats, on va dire, acceptables aujourd'hui, parce que je n'irai pas trop loin non plus, pour les raisons que je vais évoquer ensuite. On obtient des résultats acceptables dans la mesure où les populations locales ont compris l'intérêt qu'ils avaient ou qu'elles avaient à défendre la faune avec nous. On crée des emplois parce que, j'en parlerai tout à l'heure, on a mis en place un programme de formation métier. Aujourd'hui, on part du principe qu'être éco-garde ou ranger, c'est un métier qui doit être reconnu. Et tout a été mis en œuvre par nous-mêmes donc, pour créer ce métier-là. Avec le concours des autorités coutumières, il ne faut jamais les oublier en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ou du Centre, les zones principales dans lesquelles nous intervenons. Et bien évidemment, avec les gouvernements locaux. Alors aujourd'hui, donc, encore une fois, c'est avec le concours des populations, des rangers et des éco-gardes, que nous, Wildlife Angel, on va essayer donc, de faire le job. Mais les statistiques aujourd'hui sont catastrophiques. On peut parler de population d'éléphants. Restons sur le continent africain, puisque c'est là nous travaillons. Au 19e siècle, on pouvait compter à peu près plusieurs dizaines de millions d'éléphants. En 1970, on en envisageait à peu près 1,5 million. Aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres parce qu'on les a eus récemment, moins de 400 000 en Afrique. Ceux qui disent 500 000, c'est complètement faux. On est à moins de 400 000 éléphants en Afrique.
Éléphants de forêt et éléphants de savane.
On va mélanger les deux. Éléphants de savane majoritairement, éléphants de forêt, en sachant que 23 mois de gestation pour une éléphante, comptons 2 ans à 3 ans pour élever son bébé, d'accord, durée pendant laquelle elle n'est pas productive. Donc, vous savez, pendant 5 ans, une éléphante ne peut pas procréer. Je vous laisse faire le compte tout seul.
Alors vous parlez du braconnage, on devrait parler, enfin ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, des braconnages parce qu'il y a plusieurs échelles. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce jeune braconnier rencontré dans la réserve de Wonga Wonge au Gabon. Il s'était fait arrêter peu de temps avant qu'on le rencontre et il a décidé de devenir éco-garde.
Je faisais du braconnage, mais si je le faisais c'était par cause. Parce qu'au Gabon, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas d'emploi. On est trop en crise. C'est vrai, mon père n'est plus là. Ma mère que j'ai à nourrir. Et Mon père m'a laissé un petit héritage, une pirogue, un fusil. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je rentre chez mon village, j'ai de la viande abondamment. Je dis, je pars, je tue, je viens vendre à Pointe-Gentille, ça va m'aider. Je cherche à tuer des potamoucheurs, des sangliers, des singes, des gazelles, porcs épics. J'ai toujours tenté de vouloir tuer des plus grosses comme des éléphants, des buffles, mais je n'ai jamais réussi. Un singe peut rapporter 10 000. D'autres, comme celui qu'on appelle le macaque, lui part à 15. Et un potamoucheur peut rapporter 200 000. Ça gagne bien. Mais un temps, j'ai réfléchi. Pourquoi même continuer encore de faire ça tant qu'on nous interdit? Et où allons-nous aller chasser encore? Le braconnage, c'est vrai. Ça rapporte, mais ça n'amène nulle part. Parce que tu ne fais rien avec cet argent. C'est l'argent de l'ambiance. Tu pars, tu tues, tu viens, tu vends, ça finit. Donc, il faut vous trouver des emplois où, demain après demain, tu peux être vieux. Tu sais que tu as de l'argent quelque part que tu pourras aller toucher. De là-bas, tu peux mourir. Parce que c'est risquant. En forêt, c'est risquant. Des fois, tu as une poursuite, des éléphants qui te poursuivent. Ou tu peux te retrouver face à face à une panthère ou des serpents. Comme moi, je me suis déjà retrouvé face à un serpent noir, un cobra. Ça fait peur, vraiment peur.
Mais il est là. Rien.
Serge Lopez, comment réagissez-vous à ce témoignage?
Génial. Génial tout simplement pour deux raisons. La première, parce qu'il décrit bien donc, le pourquoi du braconnage. Il a besoin de vivre, ce jeune-là. Il a besoin de faire vivre sa famille. Et c'est tout à fait normal. Et nous, Français, nous, Européens, donc, on ne comprend pas pourquoi, effectivement, ils vont donc, abattre des animaux. Mais quand on vit avec eux, on le comprend. Et si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Soyons clairs. Par contre, après, il y a un revirement de tendance où il comprend que, ben, d'une part, c'est dangereux, le fait d'être en braconnier. Et d'autre part, que ben, ce n'est pas viable, il n'y a pas de pérennité dans cette action. Et peut-être qu'il a été aussi sensibilisé, motivé donc, pour changer de bord. Moi, c'est ce que je dis souvent. Un, ne jetons surtout pas la pierre donc, aux braconniers, parce que très souvent, on l'a vu sur le terrain, ce sont des pauvres gens qui ont besoin de faire manger leur famille.
Enfin, ce type de braconnier.
Ce type de braconnier. Alors, oui, mais ce type de braconnier, ce sont les braconniers que l'on retrouve partout. Parce que, par exemple, ceux qui abattent les rhinocéros, 60 000 $ US le kilo de corps de rhinocéros. Vous croyez que ces gens-là sont payés 60 $ US le kilo? Absolument pas. Ces gens-là vont être payés des centaines de randes ou de dollars zimbabwéens, je ne sais trop quoi. Par contre, il faut penser aux gros bonnets qui sont derrière. Mais sur le terrain, nous, on les voit jamais, ces gros bonnets. Nous, sur le terrain, on voit des populations donc, qui sont, dont il y a une paupérisation très forte dans la plupart des pays dans lesquels nous travaillons. Je vous raconte une petite anecdote très rapide. Récemment, donc, des bien-pensants français m'ont dit « Oui, mais vous intervenez au parc W transfrontalier entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Mais pourquoi ne les intéressez-vous pas économiquement, les populations, etc. ?» Il y a du tourisme, oui. Le parc W est en zone rouge. Il n'y a pas un touriste qui vient dans le parc par an. Comment voulez-vous qu'économiquement, on puisse aider nos amis africains, si ce n'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mettant en place des structures, un nouveau métier, qui est le métier d'éco-garde, en expliquant à quoi ça sert, et surtout derrière, pour enrôler le maximum de personnes avec nous, dans l'intérêt de la faune sauvage.
Sabrina Kriff, c'est ce que vous constatez aussi sur le terrain?
Oui, tout à fait. Nous, quand on recense les endroits où les pièges sont posés dans le parc de Kibale, en fait, on trouve que ces pièges sont placés à côté des campements des ouvriers du thé. En fait, le parc est entouré de plantations de thé et les gens vivent à la bordure. Et ils sont aussi extrêmement pauvres. Ils gagnent 1 € par jour pour collecter 300 kilos de feuilles de thé. Donc forcément, aller acheter un poulet ou un morceau de chèvre au village, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller poser un collet juste à côté dans la forêt. Donc voilà, nous, pour nous, une des solutions serait vraiment de permettre d'augmenter les revenus avec une agriculture plus propre, donc en passant vers une agriculture bio, avec des débouchés, des filières donc de produits bio, équitables, etc., de façon à ce que nous aussi, ici, on soit responsables de nos achats. Parce que quand on décide d'acheter un paquet de thé à 2 € plutôt que d'en acheter un à 4 €, bah, on ne sait pas ce que ça veut dire derrière. Et cette sensibilisation-là, elle est aussi importante. C'est-à-dire que nous, occidentaux, quand on achète des produits qui viennent de zones où la biodiversité est en danger, on puisse être conscient du bien qu'on peut faire en choisissant un produit équitable et du mal qu'on peut faire en cherchant toujours le produit le moins cher.
Nous sommes à Bordeaux à l'occasion du festival Climax qui va durer jusqu'à dimanche prochain. Pour les organisateurs, c'est une éco-mobilisation pour un monde moins pire, avec des conférences et des concerts comme celui de Kid Francescoli qui aura lieu ce soir à Darwin Ecosystem. Allez, un petit avant-goût rien que pour vous.
Each night I wake up in heat. How do you want me to find sleep? Your walk is my TV show.
Du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes à Bordeaux, au Darwin Ecosystem, un lieu qui incarne la transition écologique et où se déroule jusqu'à dimanche le festival Climax, qui mêle conférences et concerts pour sensibiliser un maximum de monde aux enjeux écologiques et notamment à la perte de la biodiversité, un sujet dont nous parlons aujourd'hui dans C'est pas du vent avec nos invités. Gilles Boeuf, face à l'ampleur et au rythme de la disparition des écosystèmes, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a un seuil, finalement, à ne pas franchir au-delà duquel les conditions de vie de l'humanité seraient profondément bouleversées?
On le pressent, mais c'est très difficile pour un écologue de prévoir effectivement comment ça va évoluer. Les shifts d'écosystèmes, par exemple, où brutalement un système passe d'un état à un autre, c'est irréversible. Au niveau marin, on en voit énormément, au niveau continental aussi. On le sent, on sait aussi que pour des espèces, là on parle d'espèces quand même qui sont longévives, qui font peu de bébés, hein. On a parlé de l'éléphant ou des chimpanzés, les taux de résilience sont quand même beaucoup plus compliqués que sur une population de poissons qui se reproduit beaucoup plus facilement. Et ce que je dis toujours aux gens, on nous parle sans arrêt de résilience, mais n'oublions jamais une chose fondamentale. On ne peut pas résilier si on est mort. Donc ce que je dis toujours aux entreprises, c'est ne détruisons pas. Laissons même un fifrelin quelquefois de quelque chose en imaginant que le système pourra repartir. Je sors d'un très très beau colloque là, à la fin du mois de juin organisé par Boris Cyrulnik et Hubert Mazurek à Marseille, le 4e congrès mondial sur la résilience. Et on abordait des choses aussi difficiles que les massacres du Rwanda, l'attentat du Bataclan, l'inceste, que ces questions effectivement d'écosystème. Et on se rend compte aujourd'hui que on oublie l'aspect résistance. Il faut absolument, avant de parler de la résistance. Comment le système va-t-il réagir aux agressions perpétuelles? Et comment, après, peut-être, a-t-il des chances de résilier? Moi, je dirais que, au niveau du milieu marin que je connais bien, je suis fasciné, effaré par la capacité de résilience des systèmes. Alors, on parle beaucoup du thon rouge, par exemple, chez nous. On laisserait 2 ans les thons rouges tranquilles, ça repart. On l'avait vu durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, où les loups allemands, les sous-marins allemands ont complètement permis le redépart des populations de baleines. On l'a vu aussi sur des stocks de pêche après la guerre de Libye. Les gens n'allaient plus chasser parce que c'était très, très difficile et compliqué, encore plus dangereux que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est tout ça. Alors pour revenir au braconnage, moi ce qui m'effraie, c'est que les travaux qu'on fait en Afrique du Sud, ils montrent que les gens ont intérêt à braconner. Ils sont très peu souvent pris, ils me racontaient. Les amendes ne sont pas tellement élevées dans certains endroits. Donc c'est vrai, comment ces populations dont parlait Sabrina ou Sergio tout à l'heure, va-t-on les convaincre que quelque part, chaque fois qu'on coupe un arbre de trop ou qu'on abat un animal, on s'appauvrit un petit peu plus? C'est très très difficile. Et c'est pour ça que je me bats en ce moment contre des écolos, justement, qui accusent les systèmes africains. On me dit, oui, si on a des problèmes aujourd'hui, c'est la faute des femmes africaines qui font trop de bébés. Diantre, on a des problèmes parce que dans un système où nous-mêmes, la surpêche ici, la pollution par les pesticides qu'évoquait tout à l'heure Sabrina, c'est pas lié aux femmes qui font trop de bébés. Et puis aussi, il faut bien voir que chaque fois que je suis en Afrique, je rencontre des chefs d'État africains, et ils nous disent, on doit s'adapter au changement d'hiver que l'on voit, dont le changement climatique, c'est de votre faute. Hein, c'est profondément injuste ce système qui est là. Par contre, ce qui est de la faute des Africains, c'est que la déforestation, c'est bien eux qui l'amènent à bien. 700 millions de femmes en Afrique vont chercher du bois dans la forêt pour chauffer de l'eau. Et après, je terminerai en disant qu'ils n'ont pas envie de partir, ces gens-là. Donc nous sommes inéluctablement dans une situation où il faut qu'on fasse tout pour que ces gens-là soient bien chez eux. Et ça va, bien sûr, dans les questions d'harmonie avec la faune. Avec Sabrina, j'étais allé la voir il y a quelques années. Ce qui m'avait fasciné, c'est que les populations humaines auprès des parcs de gorilles n'en avaient jamais vu. Hein, on a voyé des enfants qui s'amusaient avec des habits, des déguisements de gorilles. Ils n'avaient pas vu. Ça coûte très cher. Quand est-ce qu'on les emmènera, eux aussi, voir leur faune propre pour qu'ils prennent? Et puis surtout, comment est-on sûr que cet argent très important, ben on paye que en cash, hein, quand on va voir les gorilles. Dans quelle poche va-t-il cet argent? Il faut que les populations... Alors en Namibie, c'est un petit peu mieux. Et toutes ces questions-là sont générales. Et le braconnage, d'abord, il faut qu'on tue les marchés, évidemment, pour les rhinocéros, ce que disait Sergio, tout à fait évident, qu'on tue ces marchés. Vous savez, la corne du rhinocéros, c'est de la kératine. Alors j'ai dit, rongez-vous les ongles et vous verrez si ça marche avec votre copine, finalement. Hein. Eh bien, je crois que le Viagra sur les rhinos, c'est pas encore passé. Et Sergio m'avait raconté une histoire terrible, il me disait que même si on enlevait la corne, quand un pygmée baka piste un rhino, eh bien, on l'abat quand même s'il n'a pas de corne pour ne pas s'embêter à retraquer un rhinocéros qui n'a pas de corne. Donc il y a vraiment une organisation qu'il faut qu'on combatte, qui est vraiment mafieuse, et là on a une vraie responsabilité, bien sûr.
Franck Courchamp, sur cette histoire de seuil d'irréversibilité.
Oui, le problème, je pense que on ne sait pas exactement comme il vient d'être dit, quand est-ce que ces seuils vont arriver? Ces seuils, ils dépendent de beaucoup de choses, ils dépendent des écosystèmes.
Oui, parce qu'il faut rappeler ce que c'est qu'un écosystème. Hein. L'insecte est aussi important que l'éléphant.
Voilà, un ensemble d'espèces en interaction dans un habitat. On a des modèles qui montrent, par exemple, que pour l'Amazonie, des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des tipping points en anglais, ou des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus, et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer. Et ça, c'est un point de basculement qui fait que on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on peut pas revenir en arrière. Et ce qui est important, je pense, à réaliser, c'est pas forcément que la biodiversité disparaît petit à petit et que c'est grave pour la biodiversité. Évidemment, c'est grave pour la biodiversité. Évidemment, éthiquement, moralement, philosophiquement, c'est dramatique de perdre des espèces entières, des espèces qui ont mis des centaines de millions d'années à évoluer jusqu'à ce qu'elles sont maintenant et qui sont parfaitement adaptées à leur environnement, quelles que soient les espèces, quel que soit l'environnement. Mais principalement, égoïstement, c'est l'homme qui est au centre de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que la biodiversité va diminuer, l'homme va en pâtir beaucoup et la biodiversité va repartir. La biodiversité va mettre quelques millions d'années à retrouver des niveaux élevés et l'homme, lui, entre-temps, est-ce qu'il aura réussi à survivre? En tant que civilisation, certainement pas. En tant qu'espèce, oui, moi je pense que oui, même si certains sont moins optimistes que moi. Mais je pense que c'est ça la chose fondamentale qu'on oublie souvent, c'est que la protection de la biodiversité, elle est aussi pour nous protéger, nous. Et c'est ça qui est important.
Alors après, on fait quoi une fois qu'on part de ce constat? Sabrina Krief, en avril dernier, vous avez lancé un appel pour que la France engage un plan d'urgence pour sauver les grands singes de l'extinction. Il faudrait que j'ai un petit peu plus d'enthousiasme dans ma voix. Qu'est-ce que ça donne?
En fait, une chose est claire, c'est qu'on se bat au quotidien sur le terrain. En Afrique, et comme je le disais, on essaye de créer des emplois, on essaye de faire en sorte que les enfants puissent rentrer dans la forêt et voir ces chimpanzés, ces gorilles, pour avoir envie de les protéger, pas juste de les voir quand ils viennent dans leur champ pour piller les plantes. Mais ici aussi, on a des choses à faire. On doit être exemplaire, c'est-à-dire qu'on ne met pas un chimpanzé sur un plateau de télé, on ne permet pas le passage de viande de brousse ou le trafic de jeunes chimpanzés ou d'animaux sauvages par nos aéroports. On essaye de sensibiliser les grandes entreprises à les rendre plus responsables, à faire en sorte de ne pas continuer à importer des produits qui viennent de la déforestation. Aujourd'hui, on sait les tracer. On essaye de faire en sorte de protéger les habitats qui sont en régénération, comme disait aussi Gilles. C'est très important, ces zones où il reste un petit quelque chose. Il ne faut pas les brader. C'est là où nous, on trouve le plus de biodiversité, le plus de chimpanzés, entre autres. Dans ces forêts qui ne sont pas des forêts dites primaires, il y a encore plus de vie. Donc, protégeons ces derniers espaces. Voilà. Et donc, essayer d'avoir des actions à tous les niveaux, du citoyen jusqu'aux politiques, en passant par les entreprises et les ONG, et faire appel aussi à des personnalités qui ont avec nous lancé cet appel, donc Nathalie Baye ou Patrick Roger ou Laurence Parisot, qui touchent des mondes que les scientifiques, auxquels les scientifiques n'ont pas toujours accès, pour essayer de rendre le plus possible le public conscient de ce moment qui arrive où on risque d'aller vers l'irréversible.
Serge Lopez, il y en a eu énormément, des rencontres internationales et des déclarations pour la lutte contre le braconnage.
Oui, bien sûr, il y a eu énormément de rencontres, il y a eu des événements extraordinaires, donc au cours duquel le président de la République du Kenya, appuyé d'ailleurs de certains de nos ministres, ont brûlé des quantités d'ivoire, etc. Donc c'était génial, c'était beau. Malheureusement sur le terrain, donc ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on doit faire. Les Européens, les gouvernements européens doivent aider les gouvernements africains pour mettre en place des politiques draconiennes de protection de la faune sauvage. Quand je dis doivent les aider, c'est simplement financièrement. Les Africains sont tout à fait capables de mettre en place des actions, avec nous ou pas, peu importe, pour mettre en place des actions de protection et de sauvegarde de leur patrimoine. Par contre, ce qui leur manque parfois, et très souvent même, c'est de l'argent, et qu'à un moment donné, on puisse se dire que la communauté européenne, par exemple, peut aider ces gouvernements africains, à condition, bien évidemment, derrière, donc, de suivre ce qui est mis en place, ce qui n'est pas tout le temps le cas, de suivre ce qui est mis en place, et d'obtenir des résultats. Je suis persuadé que si demain, malgré les appels, tout ce que vous voulez, on pourra appeler les gens toute la journée. Si demain, donc, les Européens n'appuient pas les gouvernements africains financièrement et que ces derniers n'utilisent pas cet argent pour le mettre à disposition des populations locales pour protéger leur patrimoine, là, on va y arriver. Sinon, on pourra faire autant de colloques, de réunions, d'appels que vous voulez. On n'obtiendra rien.
Nous sommes à Bordeaux au Festival Climax qui propose en plus de nombreuses conférences des concerts comme celui de Christophe Chassol qui se produira ici ce soir à Darwin Écosystème. Voici une de ses compositions, Pipornithologie.
Thank you. c'est que sur la montagne, dans mon pays, il y a une montagne qui a craché du feu en 1900. Quand tu vas te promener sur les sentiers là-haut, quand tu entends dans le vent, comme une réverb qui te renvoie un son particulier venant du lointain, mais c'est sur les façades de la montagne, c'est tellement beau, attends, tu entends.
Du vent sur RFI.
L'homme, centre du monde, cœur de l'univers, joyau de l'évolution, perdu au fin fond d'un univers infini, parmi plus de 200 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, et autant de galaxies dans l'univers visible. Le cerveau de l'homme peut-il se représenter ces nombres? Autant d'étoiles dans l'univers que de gouttes d'eau dans les océans de sa planète. Ou de grains de sable sur ses plages et déserts. L'homme, une poignée de secondes dans la journée d'existence de sa planète. Il partage son espace avec des dizaines de millions d'autres espèces vivantes, toutes interconnectées et indispensables à sa survie. Nombreuses sont plus abondantes, plus résistantes ou performantes. L'homme, convaincu d'être le sommet de la création, semble par bien des critères insignifiant.
Ce que nous venons d'entendre est la bande-annonce du film d'animation 3D Insignificante que vous avez réalisé, Franck Courchamp, avec Clément Morin. Les images sont sublimes, allez les voir sur Internet. Hein, et comme vous l'écrivez, Franck Courchamp, dans la présentation, cette série de 9 films courts nous invite, à l'heure où l'homme ne voit pas plus loin que le bout de son tweet, à prendre quelques minutes pour contempler l'extérieur de notre nombril. C'est ça l'urgence.
Oui, en fait, on a essayé, donc on a fait un film qui n'est pas un film très important, puisque c'est un film qui est centré sur l'homme, et que l'homme, c'est pas très important. C'est pas très important à l'échelle de l'univers, et c'est pas très important à l'échelle de l'environnement, de la nature. Ce qu'on voulait, en fait, c'était pas tellement rabaisser l'homme, mais c'était de montrer à quel point le reste était extraordinaire. Et pour montrer à quel point c'était extraordinaire, on a utilisé les images de Clément Morin, qui fait de l'animation 3D de manière à la fois extrêmement poétique et très très technique. Et ces images sont mises en place pour montrer des échelles ou des concepts qui sont difficiles pour nous à appréhender. Comme on le voyait là, le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, par exemple, ou le nombre d'espèces qu'il y a sur Terre, ou depuis combien de temps l'homme est sur Terre à l'échelle de l'histoire de la planète. Et tous ces chiffres, toutes ces échelles, on les a mises en image avec vraiment une beauté assez particulière, assez originale, mais en même temps, on a essayé de trouver des métaphores pour essayer de faire comprendre un petit peu ces choses-là. Par exemple, on voyait là dans la bande-annonce le nombre d'étoiles dans l'univers qui est comparé au nombre de grains de sable sur les plages et déserts de la planète ou au nombre de gouttes d'eau dans l'océan. Alors peut-être qu'on ne se rend pas forcément mieux compte, mais au moins on se rend compte à quel point c'est énorme. Et en fait, dans chacun des épisodes, il y a des images comme ça, des métaphores qui cherchent à faire mieux comprendre certaines échelles. Et le but, c'est vraiment d'émerveiller sur la beauté de notre univers et la beauté de la nature.
Gilles Boeuf, c'est peut-être l'un des grands défis, finalement, à l'heure où l'humanité habite de plus en plus en ville. Hein, plus de la moitié de la population mondiale en ville habite en ville et ça va augmenter jusqu'à 75%. Il faut maintenir, recréer cet émerveillement.
Tout à fait. J'ai lu récemment des textes qui sont absolument ahurissants. Il y a 15% des enfants en France qui ne marchent plus pieds nus sur une pelouse d'herbe ou qui ne vont pas marcher pieds nus sur le sable. ils vont être malades. Cette jeune fille qui me disait à Hong Kong un jour, je ne mets jamais de jupe courte pour aller dans la nature, au cas où les herbes folles me frotteraient les mollets.
Pourquoi les enfants sont malades s'ils ne marchent pas sur l'herbe ou sur le sable?
Ils pensent qu'ils vont être malades.
Ah oui, ça leur fait peur.
Les parents leur ont dit ça, et cette jeune fille me dit, j'y vais plus. Elle ne s'est jamais roulée dans l'herbe pour faire des câlins. Hein. Elle ne sait pas ce que c'est. Et ce retour du contact est essentiel. Moi, je vois des gamins à Paris, ils ne savent pas que c'est la vache qui donne le lait. Ce petit garçon qui me disait un jour, sur les toits de Paris, on faisait des radis, avec une Africaine d'ailleurs, qui avait gagné le grand prix de la femme de l'année pour L'Oréal. Et il s'étonnait que les radis ne poussent pas en bottes. Et après, l'or, il me dit, mais d'où vient le sel? Donc, on est vraiment sur une faillite totale de l'éducation sur ces questions-là. Vous savez, ce qui m'a violemment heurté, c'est de voir que des gamins français, de familles respectables, sont capables de faire deux jours de queue sur un trottoir pour acheter le dernier modèle d'iPhone. Comment ont-ils été éduqués? Anecdote, il y a quelques jours, je rentrais de Strasbourg, et un type bien habillé dans le train s'est mis à accrocher le contrôleur en disant « Votre train est sale, je ne vois pas par la fenêtre ». Le type lui dit « Vous savez, on est en février, il a neigé hier, on n'a pas lavé le train. Quoi ?» Je me suis levé, on a failli se taper sur la figure. Je dis « Vous savez que vous lavez votre train avec une molécule qui fait les trois quarts d'un bébé quand il naît ?» Oh, il s'est écrasé le type, hein. Il a vite compris que ça ne marchait pas. Comment ont-ils été éduqués? Donc, ce que vous dites sur l'histoire, effectivement, de la coupure, en 2007, c'était octobre 2007, on bascule. Pour la première fois, il y a plus d'humains dans les villes que dans les campagnes. Effectivement, on va être de plus en plus nombreux, et ces villes, elles sont où? Elles sont souvent au bord de l'océan. Cherchez les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de l'océan, il n'y en a pas beaucoup, Paris. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette réharmonisation qu'on a évoquée avec le vivant, Franck a eu un mot que j'adore, c'est le mot émerveillement. Le rôle d'un scientifique, effectivement, c'est de rester effectivement dans la science base, on a dit. Il faut tuer les fake news, mais en montrant le côté merveilleux du système. Et tous les éléments qu'on a abordés ici depuis tout à l'heure sont essentiels pour cela. Une météorite moche comme tout, qui vraiment on aurait jeté à la poubelle, quand on raconte son histoire, mais on en pleure de beauté et de joie. Elle a l'âge de la Terre ou du Soleil. C'est tout ça. Et tous nos animaux dont on parle ici, là, et puis alors, bien sûr on parle de cela et on ne parle pas de ceux qu'on ne connaît pas. Ce qu'il y a, tout à l'heure on parlait, j'aimais bien l'image sur les grains de sable qu'abordait Franck, mais c'est partout. Nos bactéries en nous sont au moins aussi nombreuses et sur nous que les cellules humaines. Alors quand un humain il est fait d'eau et de bactéries, ça devrait lui rabattre un peu le caquet quand même. Hein.
Sabrina Krief, vous faites beaucoup pour l'éducation aussi, pour sensibiliser aux grands singes.
Oui, je pense que c'est vraiment important de transmettre. Et moi, j'ai la chance de pouvoir les voir, d'avoir cet émerveillement. C'est mon moteur. Si je peux en transmettre une petite partie, ça participe, je pense, à notre travail de scientifique. Et j'ai en plus la chance d'avoir un mari photographe. Donc, la photo et la vidéo, c'est vraiment des moyens importants. Mais je pense que toucher du doigt ce qu'il y a dans nos forêts aussi, dans nos prairies, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'avant de penser à aller très très loin, regardons déjà dans nos campagnes, et ça c'est fabuleux.
Serge Lopez, c'est important en Afrique aussi d'éduquer les enfants, de leur apprendre cet émerveillement face à la biodiversité?
Bien sûr que c'est important, c'est même déterminant. Alors il y a des jeunes Africains qui ont la chance de connaître la faune sauvage parce qu'ils habitent dans des villages qui sont très proches, donc ils arrivent malgré tout donc, à connaître un petit peu les animaux, ne serait-ce qu'au travers de leurs parents. A contrario, ce que disait Gilles tout à l'heure, donc, et flagrant également en Afrique, hein, on a un développement, et nous on le voit très bien en Afrique de l'Ouest, on a un développement des populations essentiellement donc, sur l'océan Atlantique. Et c'est vrai qu'effectivement, donc on se rend compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent donc dans les villages auprès des parcs nationaux. Donc ce qui veut dire qu'il y a une perte quelque part de cette connaissance. Et nous avons des anciens donc dans nos villages qui sont extraordinaires, qui connaissent. Alors ce ne sont pas des scientifiques, ils n'ont pas fait donc de grandes études, mais par contre ils ont une connaissance de l'animal africain, du pistage. Ils ont une connaissance donc par rapport à, comment dirais-je, à la météo, par rapport au vent, par rapport aux phases de la lune. Et c'est vrai que là, donc nous, même si on est très pointu scientifiquement, je dirais, on est à côté de ces gens-là qui ont la connaissance. Et le danger, c'est que petit à petit, on a ces populations qui commencent à déserter les campagnes, qui désertent les parcs nationaux. On a de moins en moins de pisteurs efficaces. Nous, on le voit avec les jeunes. Hein. Mais les jeunes aujourd'hui connaissent le smartphone, connaissent plein de choses. Par contre, dès qu'on leur parle, je parle des populations des jeunes des villages, hein, dès qu'on leur parle de faune sauvage, ils sont beaucoup moins à l'aise. Et ma crainte, c'est que dans 20-30 ans, les jeunes de nos villages africains ne connaissent plus du tout leur faune. Donc, tout notre travail est encore une fois donc avec les populations locales, avec les anciens. Je crois qu'il y a un maître mot à retenir. Il faut travailler avec les anciens des villages parce qu'on a la connaissance, on a la sagesse et ils sont respectés. contrairement à ce qui se passe chez nous en Europe. Là-bas en Afrique, on a un respect donc très important de l'ancien, et nous on en joue, parce que c'est grâce avec les anciens qu'on arrive à contacter, à faire passer le message auprès des jeunes, en faisant en sorte qu'ils puissent eux aussi s'émerveiller auprès de ces populations. Et quand je discute avec des jeunes Africains de l'Ouest en leur disant « Vous savez qu'un guépard, ça peut aller jusqu'à 105-110 km/h », ils ne me croient pas. Quand je leur dis à un moment donné « un hippopotame peut te courir derrière, mais plus vite que toi », mais non, c'est pas possible, il est trop lourd. Ben si, c'est possible. Il court plus vite que toi. Donc on se rend compte qu'effectivement, après, ils ont une approche de l'animal sauvage complètement différente. Il faut les éduquer. Et encore une fois, nous, on essaie de faire des choses, mais ça doit passer par les anciens. Et là, le message va être retenu.
Non, il faut faire des ponts. Et puis, bon, tout ce qu'on a dit, évidemment, enfin, tout ce que vous avez dit n'est pas très optimiste sur l'avenir de la biodiversité, mais plutôt l'avenir de l'humanité, comme vous disiez, Franck Courchamp. Après, si on veut vraiment qu'il y ait un sursaut, ça implique quand même de remettre en cause la mondialisation des échanges, un certain nombre d'industries polluantes, bref, de bousculer tout ce que nous avons construit depuis la révolution industrielle.
Changer pas mal les valeurs. Changer les valeurs, c'est-à-dire, on le dit dans ce film, Insignificant, essayer de mettre plus l'être que l'avoir. C'est-à-dire que pour l'instant, on essaye d'avoir plus, d'amasser du matériel, au lieu d'essayer d'être meilleur, d'être plus heureux, etc.
Et vous ne pensez pas, Gilles Boeuf, qu'il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience ?
Je le vois parce que nous sommes invités, nous écologues, dans des cercles où c'était inimaginable d'être invité il y a encore une quinzaine d'années. Hein. Des banques d'affaires, par exemple. Alors bon, il faut se dire, est-ce que c'est sympa de se payer un écologue pour discuter ? Peut-être, mais c'est plus fort que ça. J'écoute maintenant l'entreprise. Vous savez, moi j'étais d'une génération de scientifiques publics où l'entreprise était le grand Satan à une époque. Hein. Ça a beaucoup changé. Et je pense qu'on ne sauvera jamais les systèmes sans eux. Il faut qu'ils participent. Parce que maintenant, ils ont besoin d'un personnel qui soit fier de l'appartenance à l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il reste des systèmes complètement aujourd'hui pernicieux. Les lobbies actuels, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, savent très bien qu'ils ont déjà perdu. Mais ils continuent à faire du business sur ces questions-là. Parce qu'on vit d'un espèce de monde d'illusion, en faisant la politique de l'autruche, qui est beaucoup plus maligne que l'on croit d'ailleurs, sans se préoccuper de ces questions-là, en court-termisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais être un peu péremptoire pour une fois. Il faut qu'on arrête cette économie délirante qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Moi, j'y crois. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble là ? C'est que ce probable qu'on nous promet, c'est vrai, il n'est pas très rose, eh bien, on peut l'empêcher de se produire. Et c'est un peu le combat qu'on a tous les quatre ici dans la pièce. Sinon, on arrête tout de suite. On me dit, mais comment vous pouvez continuer à être optimiste ? Optimisme mesuré, avec, je dirais, un état de peur très mesuré aussi, mais dans un système, effectivement, d'intérêt pour l'autre, et puis de projection vers l'avenir, qu'on n'a pas du tout. Et je reviens à Groucho Marx qui disait, mais pourquoi j'irais faire quelque chose pour mes descendants, ils n'ont jamais rien fait pour moi. C'est un peu comme ça que marche le système politique aujourd'hui.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est la journée d'action mondiale pour le climat. Donc regardez ce qui se passe près de chez vous. Le mot d'ordre, exiger de nos dirigeants locaux qu'ils s'engagent à construire un monde zéro fossile où l'humain passe justement avant le profit. S'il n'y a rien de prévu près de chez vous, bah, vous pouvez créer votre propre rassemblement. Il y a plein de modes d'emploi sur Internet. Merci donc à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio à Darwin Écosystème et pour la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'est pas du vent @rfi.fr.